Bouchard en parle, présenté par Matelas Dauphin et sa vente prix d'entrepôt. Payez le prix entrepôt sur tous nos matelas et payez en 12 versements, plus taxes payées, dans tous les matelas Dauphin.
7h38. Hey, on est en onde! C'est supposé être la courte pause. Elle n'est pas si courte que ça, mais bon, on travaille fort là-dessus. Hey, c'est le retour, c'est vendredi. Je suis assez content. On l'a juste fait une fois, mais c'est déjà une tradition. Les clashs du vendredi dans Bouchard en bas. On sait quoi cette affaire-là? Grosso modo, là, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Moi, je trouve qu'il y a pas assez de débat au Québec. Hein? On est trop genre, tout le monde en parle québécois versus tout le monde en parle français. Là. Il y a une grosse différence. En France, il y en a des clashs, des débats en masse aux États-Unis aussi. Ici au Québec, c'est plus tout le monde est d'accord. C'est
on
le
aime
consensus.
Le consensus. Ouais.
Ah, ben, c'est vraiment bon ce que tu dis. Oui, mais hey, je suis encore plus d'accord que toi. Mm. Hey, non, mais là, toi, tu es d'accord. Moi, je le suis encore plus.
Je reçois ce que tu me dis très, très bien.
Puis, oui,
je suis préoccupé.
Bien,
J'entends, oui.
Oh mon Dieu. On a de la misère. D'ailleurs, en passant, ça va quand même bien, mais si vous saviez comment on travaille fort pour organiser des clashs.
Et
on ne veut pas. Hey, on fera une émission de radio, vous exprimez votre point de vue. J'imagine que vous, tu sais, vous avez des convictions, mais devant quelqu'un qui ne pense pas comme vous, ah, là, pas sûr, ça ne me tente pas. Yo, que c'est ça? Mais on en trouve pareil. Alors, les clashs du vendredi, c'est ça. La semaine dernière, c'était une féministe contre un masculiniste. Ça s'est bien passé. Échange fort intéressant. Il n'y a pas eu vraiment d'engueulade. Ça s'est fait dans le respect. Là, cette semaine, ça a brossé un peu plus. Nous avons réuni, Pascal, CV a réuni, dans le même studio, un athée et un croyant.
Une croyante.
Une croyante, pardon. Ouais. Alors, un athée et une croyante. Ça a brossé. Pascal, présent.
Oui.
Nous sommes, j'ai hâte d'entendre ça.
Ben, tout d'abord, merci à Valérie Roberge-Dion, qui est la croyante, qui
oui.
a accepté
est-ce
de
est-ce
qu'elle
est dans un groupe où c'est vraiment juste... elle n'est pas porte-parole d'un mouvement
non.
ou tout, là? C'est juste que c'est une croyante convaincue.
Exact.
Elle est catholique?
Oui, exact.
OK.
Et il y a Jacques Légaré, qui est un athée militant, qui a participé aussi au débat.
Parfait.
Donc, ça s'est fait dans le respect, mais vous allez voir que c'est pas toujours facile à une confrontation d'idées de ce genre-là.
Mais c'est correct.
On commence avec la première question. Est-ce que croire, c'est être ignorant?
La religion puis l'ignorance, pour moi, ça n'a rien à voir. Présentement, il y a 4 personnes sur Terre sur 5 qui se disent religieux. La logique voudrait que ce soit pas 4 ignorants sur 5 aussi. Donc, il y a du gros bon sens de part et d'autre. Les gens rationnels, autant du côté athée que du côté religieux, il n'y a pas de différence à ce niveau-là.
La foi est vide de ce qu'elle propose. Elle est vide. C'est un projet ou une idée proposée, alléguée, affirmée, mais jamais prouvée. Donc, c'est une immense ignorance. Toute religion est une malbouffe culturelle. La religion est extrêmement toxique et dotée d'une propagande d'une puissance extraordinaire. Ce qui fait qu'il y a encore 5 millions ou 5 milliards de croyants, mais ils sont croyants parce que ignorants, crédules ou fragilisés. C'est les 3 catégories.
Oh
boy, ça met la table.
Boy, j'ai hâte que le clash commence.
Ça met la table. Et à un moment dans la discussion, il y a Jacques qui a fait référence à une éducation catholique, une éducation où la religion en fait partie. Pour lui, c'est une éducation biaisée que Valérie a eue et qu'elle répète avec ses enfants.
L'enfant est trop jeune pour disposer d'une telle information ou d'un tel enseignement. Il n'a pas la distanciation critique pour y résister. Alors, il va gober tout comme un buvard, hein, comme Valérie l'a eu dans son enfance, puis comme je l'ai eu aussi, comme on l'a eu tous, par des écoles catholiques. Et c'est un viol.
On partage tous quelque chose à nos enfants. Ça s'appelle l'éducation. J'ai rencontré Dieu dans ma vie. Alors, pour moi, c'est très important de initier, poser des bases pour que peut-être plus tard, cette rencontre-là puisse se concrétiser. C'est un rêve que j'ai, mais c'est quelque chose que je n'imposerai jamais à mes enfants.
Oui, tu ne l'imposeras pas, mais tu vas en parler. Moi qui suis athée, avec mes enfants, leur dire que Dieu n'existe pas, jamais je dirais une histoire pareille. Puis si je leur en parle pas, c'est pas de l'athéisme. Hein? C'est simplement leur dire, c'est pas de votre âge. De même qu'un enfant de 5-6 ans, on y parlera pas d'érection, puis on y parlera pas de je ne sais trop quoi, il comprendra rien. Alors, on va attendre que sa sexualité naisse à 13, 14, 15, 16 ans. Un enfant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut ton amour de parent. Il veut s'amuser avec ses frères et sœurs. Il veut jouer tout le temps, puis il veut s'amuser. C'est ça, un enfant.
Si pour vous, c'est des foutaises. De mon point de vue, présentement, moi, je suis pas dans le brainwash de mes enfants. Par contre, je veux peut-être les initier à une quête spirituelle, à être en marche, à être des chercheurs. On fait de la philo avec les enfants. On leur apprend à développer un esprit critique. L'initiation spirituelle est de cet ordre-là.
Okay. Il a parlé de viol, hein? Il a dit que c'est un viol.
Ouais. Mais moi, je suis croyant, Mais puis je pense que là-dedans, Valérie a pas été trop radicale. Moi, je pense aussi que les jeunes doivent faire leur choix, puis les enfants. Mais comment veux-tu pas imposer tes choix quand t'es convaincu d'avoir rencontré la vérité sublime, Dieu ou tout ça? C'est quasiment impossible de pas vouloir que tes enfants croient aussi. Mais on a tous un malaise quand on voit les témoins de Jéhovah passer avec des enfants. Cogner aux portes des maisons. On a tous des malaises quand on voit des jeunes enfants voilés dans une marche à Montréal contre le racisme. Il y en avait, là. Il y avait des petites filles de je sais pas quel âge, mais vraiment très, très jeunes, voilées. On pourrait avoir le même malaise chez les catholiques ou dans d'autres religions. On espère tous que les enfants se fassent pas imposer des choix. Mais en même temps, ça arrivera pas, parce que on parle de gens qui sont hyper convaincus d'avoir la vérité qu'un grand V, là.
Mais ça dépend jusqu'à un certain niveau. Par exemple, à quel niveau tu vas imposer ces croyances-là à tes enfants? Pour moi, Valérie, elle semble tout à fait vraiment pas dans les extrêmes. Elle dit, moi, j'ai rencontré Dieu. J'ose espérer que peut-être ça va arriver pour mes enfants. Mais ce que je fais, c'est seulement étaler les bases de ma religion pour favoriser une rencontre. Ouais. Mais si ça arrive pas, je leur impose jamais ça.
Ses enfants la voient. Il la voit prier, il la voit à la messe, il va avoir du... C'est normal que les enfants essayent de ressembler à leurs parents. Là. C'est extrêmement difficile de pas transmettre tes convictions religieuses, de faire comme Jacques, qui lui dit, moi, avec mes enfants, j'en parle pas. Lui, il semble dire qu'il impose pas son athéisme. C'est qui? Oui.
Mais t'en parles pas.
Mais c'est pas grave. Ses enfants, s'ils l'écoutent tenir un discours comme ce qu'on vient d'entendre, ça a une influence.
C'est ça, exactement.
C'est quasiment mission impossible pour les parents de pas transmettre certaines convictions.
C'est comme n'importe quelle autre valeur.
Oui.
Mais là, vous comprendrez que pour Valérie, la foi fait beaucoup de sens depuis son enfance. Oui. C'est d'avoir une confiance basée sur son expérience après une certaine rencontre avec Dieu. Bon, ce qui l'amène à croire vraiment fort tout ça. Et elle utilise l'exemple sur les disciples de Jésus qui ont vu ce qui est arrivé à Jésus, qui ont continué à croire et même, s'ils avaient peur, continuaient de propager un peu toutes les pages de la Bible et tout ça. On l'écoute.
C'était tellement fort qu'ils se sont tous fait zigouiller plutôt que de dire « Ah ah, c'était une joke finalement ». Des gens qui vont être renversés, il y a un avant et un après. Moi, ça me touche beaucoup, ça.
Si vous voulez mourir pour vos enfants parce qu'ils sont menacés par un agresseur, un pédophile sadique, alors mourir pour ça vraiment mérite des éloges. Mais mourir pour son opinion métaphysique, c'est une stupidité. On a un devoir envers soi, c'est s'aimer soi-même. L'amour de soi est premier. Comme on dit à un policier, va sécuriser la situation, mais va pas mourir, là, va pas te faire tuer. Là. Les évangiles, c'est de la fiction du début à la fin.
Pas du tout.
C'est de la fiction peu. Tout est fiction dans les textes sacrés. En plus de ça, ils sont toxiques, moralement toxiques. C'est de l'encrassement du cerveau. L'encrassement, et même là, un instant, je fais une distinction. Valérie, je fais une distinction. Ah oui, elle est terrible. Je fais une distinction entre la personne, c'est-à-dire vous-même, et la croyance. Hein, parce que j'ai un immense respect pour vous. Si vous êtes menacé, vous allez peut-être le premier à me battre comme un chien pour vous sécuriser. Mais les credos dans les textes sacrés, c'est une niaiserie intellectuelle du début à la fin. C'est abandonner son bon sens que d'abandonner son intelligence à la croyance.
Alors, on ne meurt pas pour ses opinions, premièrement. Une des raisons de... la seule raison valable de mourir, vous l'avez peut-être nommé, c'est de mourir pour les gens qu'on aime. La foi, c'est faire confiance à la parole d'un gars qui s'appelle Jésus-Christ et qui me dit « aimer ». Vous avez l'air de trouver ça un peu quétaine, « aimer ». Oui, ça peut être très rose-bonbon, mais il nous dit « aimer jusqu'à donner sa vie ». Et ça heurte beaucoup dans notre société, dans notre culture contemporaine, mais je travaille à mettre en pratique cette parole-là et je vois les fruits dans ma vie. Je vois à quel point ça me fait grandir, que ça rayonne, ça apporte du bien.
En passant 25-2-6, ça me fait réagir live au débat. Là, je suis pas d'accord avec lui, par exemple. De tout temps, il y a des gens qui ont décidé de sacrifier leur vie pour autre chose que l'amour de leur prochain. Il y en a qui se sont battus pour la religion. Ça, ouais. On peut dire, ouais, mais là, t'es pas sûr, c'est une fiction. Il y a des gens qui se sont battus pour l'égalité, d'autres pour la liberté, d'autres, il y a eu des révolutions dans le monde qui nous ont amenés jusqu'ici. Il y a des gens qui ont perdu leur vie pour aller combattre le nazisme. Il y a des gens qui ont...
Pour leur propre patrie, là, tu sais.
Oui, tu peux te battre pour différents concepts métaphysiques. C'est... L'être humain, et ça, c'est la différence entre les êtres humains et les animaux. Les animaux ne vont se battre que pour, par exemple, leurs petits, pour manger. Ils vont se battre contre un adversaire pour un territoire, de la nourriture, etc. Les humains sont capables de se battre pour autre chose que ça. Parce que, on est capable, vous allez dire, c'est ça que d'un point de vue d'un athée, c'est ça, tu te bats pour des concepts imaginaires, puis des amis imaginaires. Ben oui, mais il y a des choses qui n'ont pas de réalité concrète. Comme la liberté, la démocratie, la paix, c'est pas concret comme de la bouffe ou ton voisin, mais c'est des concepts suffisamment importants pour que des gens aient décidé de sacrifier leur vie.
Ouais.
Valérie parlait beaucoup de don de soi dans le dernier extrait. Ouais. Alors, on va l'entendre sur un exemple de don de soi qu'elle a fait.
Devenir mère, ça fait 6 ans que je dors pas la nuit. Et ça, c'est un don de soi. Ça, ça en est un sacrifice. C'est totalement illogique au premier niveau de donner, de perdre sa qualité de vie, de perdre ses vacances, de perdre mon identité aussi parfois, de mettre en veilleuse d'une certaine façon ma profession. Donc, aimer jusqu'à se donner, pour moi, depuis que je suis devenue une maman, ça, j'en approfondis encore plus le sens et je trouve ça de toute beauté. Pour moi, je dis, OK, c'est cohérent cette patente-là et ça m'intéresse.
Les théologiens, par exemple, c'est des racoleurs et des voleurs de concepts sémantiques qu'ils prennent dans les sciences humaines puis ils les recyclent en les déformant. C'est ça la gravité d'une religion, c'est qu'elle berne les bonnes personnes. Quand elle parle de sacrifice, c'est pas des sacrifices qu'elle fait, c'est des efforts normaux de parents. C'est pas un sacrifice.
Je trouve ça un peu dommage qu'on soit souvent réduit à des gens bernés, à des gens qui ont pas assez de jugeote pour se sortir de l'illusion.
Ouais, il y a peut-être un petit peu des fois de condescendance un peu. Envers, c'est bien et tout ça, c'est des concepts imaginaires. Tout ça, je comprends un peu à la fin la frustration un peu de Valérie. On continue?
Oui, absolument. Ouais. Je leur ai posé la question, est-ce que vous avez l'impression d'avoir toujours à défendre votre vérité? Jacques en tant qu'athée et Valérie en tant que croyante.
Oui.
Je n'ai pas de formation en théologie. Je ne suis pas une scientifique aussi. Donc, on n'est pas à armes égales là, aujourd'hui pour discuter des preuves. Moi, ce que je sais, c'est que nous disposons d'indices. Rien de plus que des indices. Ce qu'on a, et ce qui le parle le plus fort, à mon avis, c'est l'expérience renversante que des personnes font partout dans le monde depuis des millénaires. Des gens qui vivent un avant puis un après, qui est incompréhensible d'un point de vue humain, qui les amène à poser des gestes incompréhensibles, par exemple de don de soi. Donc, un moment de cette intensité-là, pour moi, c'est un repère. C'est un repère dans ma croyance. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, Jésus-Christ, OK, ce gars-là, il me dit ça, ça a du gros bon sens. Donc, je choisis d'accorder foi à sa parole.
La grégarité et la sentimentalité, les deux, ne peuvent fonder une vérité.
Je comprends que par effet d'entraînement, il y a des gens qui embarquent dans des systèmes de croyances. Je comprends la mécanique de ça, je la comprends tout à fait. Ce qui m'agace, c'est que cette expérience-là est pas uniquement dans la subjectivité, elle peut avoir quelque chose de très réel. Si vous vivez une prise de conscience dans votre vie, moi, je vais pas arriver puis contester la réalité de cet épisode-là dans votre vie puis de contester la place que ça a dans votre cheminement. Il y a eu une prise de conscience à un moment donné
que
vous avez vu.
Le contact avec des gens intelligents et instruits. On sort de la foi qui est une ignorance et une manipulation. Donc, c'est des prédateurs. Et ils sont tellement dangereux pour une raison très simple. Il se croit bonne personne. C'est comme un vendeur de crêpes dans la rue. Tu vas être bien avec ça.
Je ne peux pas accepter que vous mainteniez que les gens intelligents sont ceux qui se sont libérés de la religion et les gens qui sont dans l'ignorance sont encore religieux.
Le mensonge et le vol. Comment le mensonge et le vol? Ça n'a pas de sens. Oui, les organisations religieuses ne paient pas d'impôts. Sont soustraits à l'impôt. C'est un vol. Moi, toute ma vie, j'ai payé 30 % de mon revenu en impôt. Et vous aussi. Et ils ont camouflé ça sous les œuvres caritatives. Or, les œuvres caritatives, un journaliste a fait une étude, seulement 6 % des dons qu'on leur donne servent aux œuvres caritatives. Le reste, c'est pour eux. C'est pas pour
vous
rien.
Vous dérapez un peu, là. J'ai l'impression.
Non, je dérape pas.
On devrait peut-être redonner les millions de dollars qu'on aurait dû donner aux gens, aux communautés religieuses il y a 100 ans lorsqu'elles faisaient, lorsqu'elles s'occupaient du système de santé.
Non,
à ce
quand elles s'occupaient du système de santé, parce que c'était une maudite de bonne business. Parce que avant qu'elles n'existent, ces communautés religieuses-là, les services de santé existaient aussi. Quand la secte chrétienne arrive, la secte musulmane, c'est la même chose, puis la secte judaïque avec les lévites, c'est la même chose. Ils mettent la main sur la santé et l'éducation. D'abord, la santé pour se dorer, hein, voyez qu'on aime les pauvres, et sur l'éducation pour remplir la tête des enfants, leur remplir la tête du credo pour en faire des bons petits chrétiens et des bons petits juifs.
Ouh, elle est patiente, Valérie, là.
Il y a du stock là-dedans. Il y a beaucoup de stock. D'abord, sur l'impôt, autrefois, compte tenu du fait que l'Église s'occupait de l'éducation, de la santé, qu'ils ne payent pas d'impôts, c'est tel que tel. Aujourd'hui, pourquoi ils ne payent pas leur impôt?
Oui, aujourd'hui, ils pourraient, effectivement.
Personne ne pourra payer.
Ouais.
Ils n'ont plus d'argent. Ils vont payer l'impôt sur quoi?
L'histoire que si tu crois, t'es pas intelligent parce qu'il n'y a aucune preuve. Attends un peu. Juste le fait de ne pas croire, c'est une croyance. Si tu me dis que Dieu n'existe pas, c'est une croyance. As-tu une preuve qu'il n'existe pas?
Ouais.
Non. Ben moi, j'ai pas de preuve qu'il existe non plus, je l'avoue. J'ai aucune preuve scientifique que Dieu existe, mais j'y crois.
Personne n'a de preuve.
Non, mais t'as pas de preuve de sa non-existence. C'est un concept, tout ça. Donc, en quelque part, être athée, c'est aussi avoir la foi en quelque chose. C'est-à-dire que le monde a pas de sens. Il y a, on est sur la Terre, c'est uniquement la nature.
C'est
il y a,
vrai, ça.
Il y a rien après.
Oui, ça va venir, vous allez voir.
Ça aussi, c'est une forme de croyance, M. Légaré. Là. Ça aussi.
Ah oui, puis, effectivement,
puis
c'est
je
vrai.
Je ne vous traite pas de non-intelligent ou de cave parce que vous croyez que toute la Terre, c'est un hasard. Tout ça, là, tout ce qui nous entoure à matin, ce que vous voyez, ça n'a pas de sens. C'est arrivé là comme ça, le Big Bang, je ne sais pas ce qu'il y avait avant,
ouais.
Je ne sais pas qui l'a créé, mais paf, c'est sorti, puis toutes les planètes, puis l'univers, pourquoi ça existe? Oh, parce que c'est une même date, pose-toi pas de questions. Être athée, c'est une forme de croyance. Moi, je pense au contraire qu'il y a un créateur puis qu'il y a un sens à tout ça. Je veux pas l'imposer.
Ah non, c'est ça.
Je me considère pas plus brillant, mais je crois à ça.
Mais il y a souvent des gens qui se basent sur le fait qu'on n'a pas de preuves scientifiques pour expliquer un phénomène, alors ça n'existe pas. Mais vous oubliez qu'il n'y a pas de preuves scientifiques du contraire non plus. Il n'y a personne qui a dit scientifiquement que Jésus ou Dieu n'existait pas. La vérité, c'est que personne n'a la réponse à cette question-là. Tu décides d'y croire ou pas. Là.
Ça a l'air qu'on enchaîne un peu sur ce qui s'en vient. Vas-y
oui, bien prochainement. Là. Mais pour le moment, le dicton, vivre et laisser vivre. En société, on dit souvent oui. Vivre et laisser vivre. Qu'est-ce qu'ils en pensent?
Vivre et laisser vivre, ben c'est évident. En même temps, si on me demande de parler de ce qui m'anime, de ce qui donne du sens à ma vie. Je suis un peu tannée qu'on relègue ça tout le temps à la sphère privée. On a peut-être le droit de se rassembler quelques amis, de célébrer ensemble, d'aller ramasser des pommes. Souvent, on a tendance à s'excuser d'être sur la place publique puis d'avoir cette croyance-là, on dit OK, on veut pas déranger, on veut pas heurter personne. Parfois, c'est ça qu'on nous reflète, puis on nous dit restez chez vous, etc. Donc moi, je trouve qu'on aurait peut-être plus de place à accueillir les croyants.
C'est une excellente formule, vivre et laisser vivre. Mais vivre et laisser vivre les belles et bonnes choses. Mais non, vivre et laisser vivre la pédophilie catéchistique, talmudique ou coranique. Non, pas du tout. Il faut enlever l'expression « liberté de religion » qui est abusive pour la remplacer par la liberté de l'expression religieuse. Et elle va être régulée par la loi, tout comme est régulée par la loi la liberté d'expression journalistique, la liberté d'expression artistique, la liberté d'expression scientifique des savants. Tout doit être régulé par la loi. Et la religion doit se soumettre à la loi des hommes.
Je pense que M. Légaré fait aussi une erreur. Là. Excusez-moi, c'est sûr que là, je prends plus pour Valérie, parce que, mais regarde, M. Légaré a quand même l'occasion de s'exprimer beaucoup. Là. Il parle, puis je sais qu'il convainc du monde. Là, il confond deux choses. Je pense qu'il confond la croyance et la foi et l'humain religieux.
C'est ça.
Quand tu parles de pédophile, là, je m'excuse, c'est vrai qu'il y a eu des dérives dans l'Église catholique et dans d'autres religions aussi. Là. Oui, il y a eu des dérives, il y a eu des agressions, il y a eu des guerres. Mais là, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est vraiment la foi comme telle, non, c'est l'interprétation que les gens font, ce qu'ils ont commis au nom de la religion. C'est vrai que l'homme a commis des massacres et toutes sortes de crimes sous le chapiteau de la religion, mais là, faut distinguer les deux, là. C'est pas pareil.
Mais c'est parce que t'as des athées aussi qui sont pédophiles, en passant, là. La pédophilie n'appartient pas à la communauté catholique, là.
Mais il parle pas juste des gestes de physique, je crois, là, quand on comprend son propos.
Mais si on parle de la guerre, là, tout le monde parle de la guerre. C'est vrai que les guerres de religion ont fait énormément de victimes, musulmans, catholiques, juifs. Mais Staline en a fait combien, lui?
Oui.
Combien de dizaines de millions? Mao en a fait combien, lui?
Ouais.
Et Mao était athée et Staline était athée. Fait que lâchez-moi l'histoire que la religion, c'est automatiquement des massacres puis du sang. Il y en a des deux bords. L'homme, là, qui soit athée ou croyant, est toujours dangereux.
Alors, dans les deux cas, est-ce que vous jugez les gens qui croient et est-ce que vous jugez les gens qui ne croient pas?
Je ne vais pas être de celles qui vont dire « Pauvres athées, il leur manque donc quelque chose, il leur manque donc quelque chose qui les rendrait heureux puis plein d'espérance. » Pour moi, la religion n'est pas un baume, n'est pas une béquille ou quelque chose qui me fait me sentir bien. Dire « Ah oui, heureusement qu'après la mort, je vais vivre. » C'est pas quelque chose qui m'amène ce type de réconfort-là parce que c'est une position de quête continuelle. C'est une position qui m'amène à chercher, à me questionner. La foi, pour moi, à m'apporte du positif, mais elle m'apporte aussi des exigences. Ça me travaille, ça me questionne, ça me fait cheminer. C'est pas une position confortable que je me dis « Ah, pauvres athées, eux autres, si seulement il y avait ça. » Je reconnais qu'ils ont des vies pleines, que vous avez des vies pleines aussi, pleines de sens, mais je n'accepte pas qu'on réduise mon cheminement puis le cheminement de milliards de chrétiens à une illusion.
Je suis très content parce que j'ai vu que le discours des théologiens, moins des curés, parce qu'il en reste moins, c'est raffiné. parce que ils n'ont pas, j'allais dire, la même grossièreté, les gros sabots qu'ils avaient dans ma jeunesse, avec l'immense certitude, parce qu'on les a dégommés. Maintenant, ils se sont recyclés avec plus de subtilité. Mais encore là, c'est la même technique. Elle parle de risque et de projet. Risque et projet, c'est des mots modernes, ça. Alors, ils prennent ces mots-là, puis les recyclent pour les brancher au credo, un peu comme dans une prise électrique. Et d'une façon doucereuse, parce que ce sont de grands manipulateurs. Elle a été victime. Nous avons été tous deux victimes de pédophilie catéchistique. Et c'est un viol.
Oui, OK. Ouais, alors, ça, il semble y avoir un peu plus. Tu sais, des fois, on pense que les chrétiens ou les gens religieux sont plus convaincus, sont plus agressifs, mais il y a des athées aussi qui
et
sont...
Et les militants, il le dit.
Oui, non, mais il a le droit de militer aussi, je respecte son opinion, mais c'est très agressif. Là.
Il se dit radical aussi, pas oui, extrémiste, mais radical.
Je suis pas sûr que ça gagne des adeptes. Sur 25-226, je sais pas, on verra bien tantôt.
Alors, à qui se fier, ouais, la science ou sur ce qu'on ressent?
Ne répète pas ce que disent les théologiens. T'es une bonne personne, je le sais tout de suite, je m'en suis aperçu. Sauf que la propagande religieuse est d'une puissance colossale et t'en es, selon mon point de vue, là, à t'écouter parler depuis tantôt, la première, une des bonnes victimes.
Il y a autant d'historiens qui vont dans un, qui relisent l'histoire de façon différente que vous, et vous lisez ce qui vous intéresse.
Non, 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 non. J'ai lisé tous. Moi, je lis les évangiles et j'ai lu le Coran. J'ai une maîtrise en histoire byzantino arabe. J'ai lu attentivement mon bon petit Coran, qui est indigeste à lire, mais ça se lit. Puis la Bible aussi, je l'ai lu, j'avais 17 ans, puis même beaucoup après, parce que je considère que c'est un livre historique d'une extrême importance, mais pourri par excellence, et qu'après ça, on lit les grands philosophes, avant la Bible, bien sûr, les anciens Grecs, et bien sûr, après ça, les modernes, puis là, on voit la différence. Par la comparaison de ce qui est intelligent, puis ce qui ne l'est pas, l'expérience religieuse, comme on dit, ça n'est pas une expérience, c'est une opinion. Un sentiment ne peut pas fonder une vérité. C'est des choses élémentaires.
Une expérience n'est pas que subjective. Une expérience peut être très réelle dans la vie de quelqu'un, faire une immense différence.
Alors, ça dépend de qui fait l'expérience, puis est-ce que le ressenti, est-ce que dans la vie, c'est juste le matérialisme qui est, pardon, qui est important? Tu sais, il y a du monde, ouais, qui vont dire, ben oui, c'est important, la table que je touche là, le volant de mon auto, ma tasse de
concret,
café, puis
ouais,
il peut avoir, mais de toute façon, dès que tu décides d'avoir un code, puis une morale en société, puis une éthique, c'est déjà des concepts qui sont, sans dire religieux, mais qui sont métaphysiques, ouais, là. Dans la nature, il n'y a
tangible,
pas de...
Là.
Non, les lois qu'on se vote, là, elles existent uniquement sur papier. Alors souvent, la religion, c'était ça. Est-ce que ça existe dans la nature comme telle, physiquement, certaines lois que les gens se sont données? Non, on s'est donné ça à partir de quoi? À partir d'expériences qu'on a vécues, puis à partir de témoignages, puis de lectures, on s'est donné des lois.
Je leur laisse le mot de la fin.
Go!
C'est Gilles Vigneault qui disait... Dans le doute, on ne sait pas si Dieu existe, si Dieu n'existe pas. On ne peut pas le prouver. Dans le doute, tu dis, je préfère prendre le risque qu'il existe, prendre la chance qu'il existe, plutôt que l'inverse.
Et moi, je dis, quand je parie, moi, je ne veux pas parier. Je veux une certitude, puis quand je ne suis pas certain, je m'abstiens.
Juste corriger, je ne pense pas. Ben, Vigneault l'a peut-être dit, mais ça remonte à ces Blaise Pascal qui avait dit ça. J'espère que je ne me trompe pas, parce que je corrige. C'est le fameux pari de Pascal. Je pense que ça s'appelle comme ça. Qui disait, on ne sait pas si Dieu existe ou pas, mais j'aime mieux. Compte tenu du fait que s'il n'existe pas, ben il ne se passe rien après la mort. Tu sais, vu que ça se peut qu'il existe, ben, je montrerai parier qu'il existe, puis mener une vie en fonction de ça. Comme ça, ben
c'est du bien.
C'est plus logique.
C'est ça. Puis si ça aide des gens à passer au travers d'épreuves plus facilement, si ça vous aide à prendre des décisions, si ça vous aide à avoir un sens à votre vie, tu peux me dire, ça dérange qui?
D'ailleurs, si on parle de science, les dernières expériences sur le cerveau ont démontré, M. Légaré doit le savoir, que les gens religieux sont plus heureux. Parce qu'ils ont un sens à leur vie.
C'est ça.
Parce qu'ils trouvent une signification, parce qu'ils ont fait des études, et ça c'est sorti il y a même pas un an.
Et juste pour rapidement, là, oui, on a beaucoup de commentaires au 25-226, je te dirais que c'est pas mal 50-50.
Ah, tant mieux.
Il y a beaucoup de gens qui ont souligné, bon, qui sont pas croyants, donc qui trouvaient que les propos du monsieur avaient bien du sens. T'as beaucoup de gens, par contre, qui ont trouvé que la dame était beaucoup plus calme, que monsieur est beaucoup moins condescendante. Alors, ça peut être joué à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de gens qui soulignent aussi que le fait que monsieur, il a fait de son athéisme sa propre religion,
ben,
de la façon
que je disais,
c'est
ça. Ça devient aussi une conviction très, très forte, là. Continuez à nous écrire 25-226. On s'en va au tour de table.
Les actualités, une présentation de Calinette qui célèbre ses 25 ans avec 25 voyages à gagner. Vous êtes client, vous avez votre chance de gagner.
Sylvain Bouchard, 93. Jusqu'à 9h30, vous écoutez Bouchard en parle.
8h02. Vince, dans le trafic, comment ça se passe?
C'est réglé sur Laurentienne. Là, on avait un accrochage un petit peu plus tôt ce matin à la hauteur de Jean Talon. Il y a quand même encore un ralentissement qui commence un petit peu avant d'arriver à la Faune jusqu'à Louis XIV. Capitale-Ouest, c'est de Bourg-Royal jusqu'à Laurentienne. Henri IV, c'est un peu après Sainte-Geneviève jusqu'au secteur du chantier, là, au boulevard Amel. Sur Charest, direction Est, dans le secteur Jean-Gauvin, c'est au ralenti. Un peu après Robert Bourassa également jusqu'à Saint-Sacrement. Et sur la Rive-Sud, pour entrer dans les échangeurs, il n'y a pas d'attente sur la 20 en direction des ponts. Par contre, il y en a une petite sur la 73, mais il y a un gros ralentissement en sortant des échangeurs en allant vers Lévis-Centreville, puis ça se poursuit comme ça, le ralentissement jusqu'à Taniata.
La circulation, présentée par la grande liquidation en prolongation de Paquette Nissan qui vous donne les pneus d'hiver sur les Sentra, Versa et Micra. Ça vaut jusqu'à 500 $ chez Paquette Nissan à Lévis.
Les deux suspects dans le meurtre d'Ophélie Martin-Cyr ont été arrêtés au cours de la nuit. Un mandat d'arrestation avait été émis à l'endroit de René Kegle, 38 ans, et Francis Martel, 31 ans. Ophélie Martin-Cyr a été retrouvée morte mercredi matin dans un champ à Yamachiche. Le corps présentait de nombreuses traces de violence. Cependant, Cogeco Nouvelle a appris qu'un total de 3 cadavres ont été retrouvés par la police dans cette affaire. Carole Pelletier, un homme de 61 ans, a utilisé une enfant comme partenaire sexuel durant 3 ans. L'homme a avoué avoir commis plusieurs gestes à caractère sexuel envers sa victime hier au Palais de justice de Québec. Le Soleil nous apprend que Pelletier considérait la jeune fille comme sa blonde et que la mère de celle-ci était au courant. Malgré une interdiction de contact émise en 2017, les attouchements ont continué jusqu'au moment où la jeune sœur de la victime se décide de filmer une scène, images qui seront remises aux policiers. Carole Pelletier demeure en liberté et reviendra en cours en janvier prochain. Et finalement, Louise Mushikiwabo devient la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Son élection met fin au terme du mandat de Michaël Jean, dont la réputation avait été ternie par la mise en lumière de dépenses extravagantes.
Le Canadien a raté sa rentrée devant ses partisans hier en subissant une défaite de 3-0 contre les Kings de Los Angeles. Le prochain match est demain à Montréal contre les Penguins de Pittsburgh. Au hockey junior, victoire des Remparts 6-2 contre le Cap-Breton. Les Remparts ont inscrit 5 buts en 6 minutes 10 en deuxième période. Et au football, les Eagles de Philadelphie ont battu les Giants de New York 34-13.
Et il fait noir ce matin à Québec et c'est très, très gris. Pourtant, on prévoit alternance soleil nuage au courant de la journée. On avait quand même un 30 % de possibilité d'averse ce matin. Maximum de 10 degrés qui est prévu pour la journée. Et pour demain samedi ainsi que dimanche, c'est alternance soleil nuage avec un maximum de 9. À Québec, il fait 6.
La météo, une présentation de Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair. Votre prochain hiver, vivez-le au volant d'une Kia Rio avec l'entretien 2 ans en cadeau, pneus d'hiver, volant et siège chauffant plus la caméra de recul inclus. C'est l'événement toujours en tête, Rio 2018, à partir de 39 $ par semaine et on est ouvert le samedi.
FM 93, ça me parle.
8h05, je vous parle de matelas Dauphin. Voulez-vous gâter? Car j'en ai un haut de gamme ici. Là. Parce que c'est la vente. Oui, c'est la vente entrepôt chez Matelas Dauphin, le fabricant. Personne ne peut vous en offrir autant et vous le savez. Là, j'en ai tout un. Là. Un matelas Concerto à ressort en sachet. Plateau Euro, format 2 places, c'est 1398. Vous allez dire, ouais, c'est tout un matelas, ça. Non, non, mais pensez au prix que vous mettez pour d'autres choses dans la maison. Là, le matelas, c'est important. Là. 1398, mais il est en spécial. Vente entrepôt, 799. 799. Attention, payable en 12 versements. Ouais, là, fait comment pour calculer avec les taxes? Taxes payées. Alors, prenez 799 divisé par 12. Vous allez voir comment vous payez par mois. Uniquement chez le fabricant, le numéro 1, on vous attend. Il y en a un proche de chez vous, Matelas Dauphin.
Vos lunettes à partir de 79 $. La deuxième paire à 25 % de rabais. C'est la révolution Scoop Vision.
Scoop Vision ébranle encore le marché. Sur la deuxième paire de lunettes, vous obtenez 25 %. Vous avez donc deux paires de lunettes à partir de 138 $. Le tout prêt en une heure. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'apporter votre prescription.
Vos lunettes au prix d'Internet en succursale, c'est Scoop Vision. Sur Soumande, Kennedy-Lévis, à Saint-Georges et maintenant sur Quatre-Bourgeois, en face de la gare d'autobus.
Ils nous impressionnent depuis plus de 20 ans. Les virtuoses de Griffe Cuisine. Leurs designers d'expérience, spécialistes Dynamic Space, créent pour vous la cuisine haut de gamme parfaite.
Faites votre marque avec Griffe Cuisine.
En ce moment, je suis dans les coulisses puis je me prépare à monter sur scène. Mettons que je joue ma pièce de théâtre pendant 2 heures puis que je perds la voix.
Oh, mon chéri! Oh, mon cher amour! Bon, je prends quoi? Moi, je ne sais pas.
Mais ma pharmacienne, elle sait.
Elle est toujours là pour me conseiller, elle est disponible pour moi. Puis en plus, je sais que je peux compter sur elle, peu importe mon problème. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Accès Pharma chez Walmart. La santé et rien d'autre.
Béguédine! Ah ouais! Clenche! Grouille! Peu importe comment vous le dites, n'attendez pas. Parce que l'événement Zéro raison d'attendre de Volkswagen, c'est jusqu'au 31 octobre seulement.
C'est l'occasion parfaite de vous procurer un véhicule Jetta, Golf, Beetle, Passat ou Golf Sportwagen Diesel à 0% de financement jusqu'à 60 mois avec l'inspection complète en 112 points, l'assistance routière et une garantie de 2 ans en option. Trouvez votre TDI sur vw.ca.
Volkswagen. Ici Louis-Jean. TVA Sports, le Journal de Montréal et le Journal de Québec s'unissent pour le pool national de hockey. Inscrivez-vous sur lepnh.com.
Les Sports, une présentation de Saint-Hubert qui vous offre le Familial 4. Deux cuisses, deux poitrines avec tous les accompagnements à 29,95 au comptoir et au service à l'auto et à 33,95 en livraison.
Pour communiquer avec notre studio, étoile 93.3. Pour être à la fine pointe de l'information.
L'actualité, les dossiers chauds, à la minute près. Pour le 93, c'est Bouchard en parle, avec Sylvain Bouchard.
8h08, réaction sur notre dossier d'hier un peu, concernant le retour des Nordiques. Alors, le valideur est venu nous parler hier, Seattle s'est confirmé, ils sont rendus à Houston, fait que garde là, on est pas là, là. Québec est jamais mentionné. Dans la course à une équipe de la LNH, on est plus là partout. Et moi, je vous ai dit hier qu'il est grand temps que le maire Labeaume fasse un constat. Il est misé sur le mauvais cheval. Pécopé, ça marche pas. Pour bâtir l'aréna, pour gérer l'aréna, ils font pas une mauvaise job. Bon, mais là, est-ce que Régis Labeaume va être capable de tasser Pierre-Carl Péladeau? Il y a juste lui qui peut y demander. Juste lui. Au nom de l'intérêt, du bien commun, gars, Pierre-Carl, ça marche pas. Arrête de t'entêter. Ils veulent rien savoir de toi. Puis différentes sources nous indiquent que, gars, je vous répète, là, il a jamais parlé à Jeff Molson. Et il nous dit que les gens sont pauvres, puis ouais, 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 puis les gens le veulent dans la Ligue nationale, puis voyons. T'as un gars à côté de toi, là, ils sont dans la même ville, qui a une équipe de hockey qui est membre du comité de direction de la Ligue. Tu n'as pas parlé, voyons, mais ou il veut pas te parler, ou il veut rien savoir de toi, comme certaines sources semblent l'indiquer ou le penser. Bon, puis ailleurs, au Canada anglais aussi, c'est qui les alliés de PKP, là? C'est pas Jeremy Jacobs, oublie ça, il veut rien savoir de Québec. Molson, il a jamais parlé. C'est-tu le gars de Toronto? C'est-tu le gars de Winnipeg? C'est-tu Bell? Voyons donc, Bell. Péladeau est en guerre contre Bell. Il aurait apostrophé personnellement le président George Cope ici même à Québec. Il a fait des reproches, il l'a harangué devant public. Ça a été écrit par Gilbert Lavoie dans le Soleil. Donc, il est en guerre avec tout le monde. Là, la bombe, là, wake up, là. Faut que Régis se réveille, là. Et hier, je trouve ça intéressant. Mais évidemment, il a quasiment rien dit encore, avec beaucoup de condescendance et tout ça. Là. Mais écoutez bien, notre journaliste Jonathan Bernard a interrogé le maire Labeaume sur est-ce qu'il n'est pas grand temps de tasser Pécopé, est-ce que le maire y croit encore? Dans le passé, le maire était très loquace sur le retour des Nordiques. On l'a vu marcher dans la rue, manifester, faire plein d'activités. Regardez où Labeaume est rendu aujourd'hui, ça parle.
Las Vegas, Seattle et maintenant Houston. Qu'est-ce que vous avez à dire?
Vous
aux
appelez
gens de
Pierre-Carl Péladeau.
Et si c'était Pierre-Carl Péladeau le problème?
Appelez Pierre-Carl Péladeau. Ou Brian Mulroney.
Est-ce que vous avez des contacts récemment avec Québec?
Je ne parle pas de mes contacts, je dois à mes choses privées.
Mais il y a des gens qui sentent peut-être qu'ils sont le dindon de la farce dans toute cette histoire.
Mais ça fait 10 ans qu'on parle de ça. Alors, moi, je sais maintenant que les conférences sont égalisées. À partir de là, appelez M. Péladeau. Ça marche?
On comprend que vos contacts sont privés, mais vous gardez espoir.
C'est bon?
Il y a une nouvelle là-dedans, d'ailleurs, ils l'ont. Il y a où le texte dans le Journal de Québec là-dessus? Ils ont-tu fait une erreur?
Ben, où,
appelez à la rédaction. La nouvelle, c'est que la bombe ne peut rien savoir du retour des Nordiques. Ah, c'est clair, net et précis, il ne veut rien savoir. Appelez Pierre-Carl. Appelle Pierre-Carl. Moi, je lui ai mon argent. Allez,
lui. Ben, il sait qu'il n'y a plus de pouvoir là-dedans. Là.
J'ai mon cash. Moi, j'ai mon cash. J'ai mon aréna. Hey. Non, mais hey, je n'ai fait des entrevues avec lui dans le temps. Là.
Ah oui, il voulait.
Tu disais, OK, il partait pour une demi-heure.
Mais comme tout le monde à Québec, en passant.
Excuse-moi, oui. Mais là, on en parle encore, il faut faire le constat.
Ouais, mais on fait toutes le même constat.
Je m'excuse, mais les femmes de hockey sont encore là, moi, je les laisse pas tomber. La bombe veut plus rien savoir. Pour moi, c'est clair. Même, à appeler Pierre-Carl, j'ai l'impression de la bombe est brillant, là. C'est un gars très mieux informé que moi sur ce qui se passe à la Ligue nationale, les relations bien mieux que moi. La bombe est au courant. La bombe est au courant que Pécopé est barré. Sauf que, si la bombe tasse Pécopé, il arrive quoi dans les textes du Journal de Québec, les opinions des chroniqueuses et chroniqueurs à la TV sur la bombe?
Mais il peut pas.
Là, est-ce que, il y a un avantage? Est-ce qu'il peut? On est au conditionnel d'avoir un avantage. Être chômé avec Pierre-Carl Péladeau. Là, le maire, la bombe, c'est, à mon avis, là, il va falloir qu'ils prennent des décisions là, dans les prochains mois. Là. Il faut qu'il tasse PKP pour le retour des Nordiques. Il n'y a pas de chance, ça n'a pas marché. C'est un échec. C'est un échec total. Ils l'ont niaisé. Ils l'ont. Ben oui, il peut. Il a l'autorité morale. Il peut dire publiquement, je constate que Pierre Carl a échoué. Et j'y demande, au nom du bien commun et de l'intérêt pour les Nordiques et du retour du hockey, je demande à Pierre Carl de passer le flambeau. Avec des termes, là, pas les termes à moi. Je demande à Pierre Carl de s'associer ou de passer le flambeau ou de renoncer. Visiblement, ça marche pas.
Mais
c'est dommage.
Je pense qu'il connaît Pierre Carl. Puis Pierre Carl ne se, il se tassera pas parce que le maire a demandé. Pierre Carl ne se tassera jamais parce que quelqu'un lui demande de se tasser. Puis je pense qu'il connaît très, très bien le bonhomme. Puis c'est pour ça qu'il parle pas publiquement.
Alors, le vrai maire de Québec, c'est Pierre Carl Péladeau?
Mais non, c'est encore Régis qui prend les décisions pour la Ville de Québec. Pour la Ligue nationale, par exemple, c'est Pierre Carl.
Hey, sur le 3, deuxième petit extrait sur le point de presse de Régis Labeaume hier. Ça, c'est juste drôle. On va terminer, c'est vendredi, avec un peu d'humour du maire.
Il n'y a personne qui comprend ça ici. Je ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. On va nous l'expliquer maintenant, mais on ne sait pas ce que ça veut dire.
Est-ce que ça passe sur le troisième lien?
Je ne sais pas. Je ne peux pas vous en parler. Je ne sais pas de quoi il parle.
Est-ce que vous allez demander qu'on vous l'explique?
On verra. Quelqu'un va nous expliquer. Que, je ne sais pas. Je peux pas vous en parler. On ne sait pas de quoi il parle.
Est-ce que ça vous apparaît logique?
Je ne le sais pas. Je ne sais pas de quoi on parle.
En fait, c'est que cette semaine, Éric Kerr et Jonathan Julien ont dit que l'interconnexion du réseau structurant avec la rive sud devait se faire via le troisième lien.
Je ne sais pas de quoi il parle. Il s'agit précisément de quoi il parle. On ne sait pas. Ils vont nous dire un moment donné, mais on ne sait pas pour l'instant. Pas aucune idée.
Ça semble clair quand même.
Ben oui, oui.
Non? Vous vous dites, est-ce que c'est des autobus? Est-ce que c'est un passage du tramway?
Bon, je pense que on va attendre le gouvernement. Et là, on verra. Non, ils vont nous dire ce qu'ils veulent dire. Nous, on ne le sait pas. Il n'y a personne qui comprend ça ici.
OK, la guerre est poignée. C'est fait. Moi, je trouve ça triste un peu, mais c'est la bombe. Il a recherché la guerre éponyme. Il dit que la CAQ, ils disent n'importe quoi, puis ils savent pas de quoi ils parlent. La guerre est officiellement, la hache de guerre est déterrée entre la bombe et la CAQ. Quel condescendant. Je ne sais pas, vous comprenez rien. Construction. C'est ça que la CAQ a promis. La construction du troisième lien. Je comprends pas. Je sais pas c'est quoi. Je le sais pas, là. Personne ici. Personne les comprend. Personne. La CAQ, vous êtes une gang de mêlés. Legault, Sylvain Lévesque, Éric Kerr, Jonathan Julien, le maire Labeaume vous traite. On comprend rien de ce que vous dites, vous êtes des mêlés. Je sais pas ce qu'ils font, je comprends rien. Oh, que ça va brasser. Résultat, on va avoir le troisième lien pareil. Par contre, pour le projet de tramway de Régis, moi, à sa place, je serais inquiet, là. Legault a parlé d'un échéancier, tout ça. Moi, je serais pas aussi baveux que ça. On verra. On n'a pas intérêt. Moi, je souhaite pas qu'il y ait une guerre. On a intérêt à ce que tout le monde travaille ensemble et pour le tramway et pour le troisième lien. Mais avec des déclarations comme ça, tu sais, ça peut marcher. La bombe peut ramasser les journalistes, les médias, le monde de Québec. Il peut rire de qui il veut. Est-ce que François Legault puis la CAQ vont accepter de faire rire d'eux autres comme ça? À suivre, des entrevues intéressantes à venir.
Bouchard en parle.
Actualité.
Actualité.
Analyse.
Entrevue.
Opinion.
Et vos commentaires. Tout ce que vous devez savoir.
Ça va être bon, dans les prochains mois, on va s'amuser. Bon, là, on s'amuse plus. C'est l'histoire la plus dramatique actuellement au niveau des faits divers et c'est un véritable casse-tête. Il y a des rebondissements, Regarde, on va aller rejoindre tout de suite notre collègue de Montréal qui a enquêté là-dessus au 98.5, Monique Néron, concernant le drame de Yamachiche. On est rendu, là, à 3 victimes. Mais j'ose même pas dire triple meurtre, tellement on le sait pas, là. Mais là, il y a 2 cadavres calcinés, plus la jeune fille. Monique, bon matin.
Oui, bonjour à vous.
Résume-nous un peu, là, d'abord, ce qu'on savait au départ, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a été trouvée morte dans un champ, mais là, suite à ça, plein de rebondissements spectaculaires.
Oui, beaucoup de nouvelles informations, ouais. Effectivement. Vous aurez compris que la Sûreté du Québec, qui est très, très, très active dans cette enquête-là depuis 3 jours, est avare de commentaires, mais ce que j'avance ce matin vient de sources très, très fiables. La jeune Ophélie Martin-Cyr, on le sait, a été retrouvée 19 ans dans un champ, tuée par balle. Et là, on comprend un peu mieux ce qui se serait passé. Elle n'était pas seule dans la voiture ce soir-là. Elle était avec une amie de 21 ans. Elles ont passé du temps avec les 2 suspects qui ont été arrêtés au cours des dernières heures, soit René Kegle, 38 ans, et Francis Martel, 31 ans. Ces deux gars-là sont connus dans le milieu de la prostitution et dans le milieu des stupéfiants, dans le secteur de la Mauricie, mais même seraient actifs là, un peu plus largement au Québec. Et ce qu'on comprend, c'est qu'ils auraient eu des questions à poser à ces deux jeunes filles-là, liées justement à ce milieu-là. Je ne suis pas en train de vous dire que les deux jeunes femmes étaient des travailleuses du sexe ou quoi que ce soit, mais disons qu'elles avaient, semble-t-il, de mauvaises fréquentations depuis un certain temps. Et on avait des choses des informations à aller chercher, donc on les a, je vous dirais, séquestrées pendant un certain temps. Ça a mal tourné. Le véhicule est en marche. une jeune fille saute de la voiture en marche, se fait carrément tirer dessus. Elle a eu la vie sauve. Elle a pu s'enfuir, mais malheureusement, son amie Ophélie, elle, a été abattue lors de cette même soirée. Et presque au même moment, ou à peu près, là, on est à Yamachiche, du côté de Trois-Rivières, on découvre une voiture qui est complètement calcinée. Et rapidement, même si les autorités ne le confirment pas encore, on a fait le lien entre la scène du côté de Yamachiche et la voiture calcinée dans laquelle il y avait deux corps, deux cadavres complètement calcinés. Impossible, au moment où l'on se parle, de les identifier. Donc, on ne sait pas encore qui sont ces deux personnes décédées dans la voiture. Chose certaine, on a voulu faire disparaître la preuve. Il y a plusieurs hypothèses. Est-ce que ce sont d'autres jeunes filles qui ont vu des choses qu'ils ne devaient pas voir et qu'on a voulu éliminer? Est-ce que ce sont des complices qui, pour quelque raison que ce soit, ça a mal tourné, on a voulu les éliminer également? Ou encore, et je vous dirais qu'il faut quand même rester prudent, mais ça pourrait être l'hypothèse la plus plausible selon mes informations, c'est qu'on aurait peut-être ici affaire à des rivaux, à des ennemis dans le milieu de la prostitution, dans le milieu des stupéfiants qu'on a voulu éliminer. Donc, ces deux individus-là, les deux corps qui n'ont pas encore été identifiés, pourraient être des gens qui sont connus du milieu criminel. Et est-ce que les deux jeunes filles avaient un lien avec eux? Et c'est pour ça qu'on leur a posé des questions. C'est, disons, le portrait qui semble se dessiner présentement.
Mais ce qui est un peu étrange, Monique, c'est que le modus operandi est totalement différent. Il y en a deux qui ont été calcinés, donc, dans leur voiture. C'est peut-être des gens reliés à tout ce monde-là, tu sais, on ne sait pas trop, ou même d'autres jeunes filles, parce qu'on ne connaît même pas le sexe des individus, c'est bien ça?
Exact. Non, rien, les corps sont trop... Bon. Non, c'est ça.
Alors là, ils prennent pas de chance au niveau des preuves. Deux corps calcinés, et ensuite... On tire dans le dos d'une jeune fille de 19 ans en plein milieu d'un champ, puis on essaye de tuer également avec arme à feu son ami, si j'ai bien compris. Alors,
tout à fait. C'est. Et il ne faut pas oublier, par contre, que quand on dit qu'on détruit de la preuve, brûler une voiture, effectivement, ça détruit des pièces à conviction, des preuves. C'est pas dit que les deux personnes qui étaient à bord de la voiture n'ont pas été tuées par balle d'abord, et ensuite, on a brûlé la voiture pour détruire tout ce qui pouvait rester de preuves qui auraient pu aider les policiers. Là, ça, évidemment, ça va rester à confirmer, mais comme je vous dis, c'est un travail qui va être très, très laborieux aux sciences judiciaires pour essayer de découvrir tout ça. Ça peut prendre plusieurs jours, le temps qu'on fasse plusieurs expertises. On n'était même pas capable d'identifier le véhicule relié à un propriétaire. C'est vraiment des informations que les policiers ont pu colliger à force d'enquête. Et voyez-vous, c'est une belle collaboration. Souvent, on dit qu'il y a des guerres de clochers entre les corps policiers au Québec, ce qui est vrai bien souvent. Mais dans ce cas-ci, belle collaboration parce que Trois-Rivières découvre la voiture, la Sûreté du Québec chapeaute tout ça. Et cette nuit à Repentigny, chapeau aux policiers qui ont vu une voiture un peu louche, un peu suspecte, qui ont eu le flair d'intercepter le conducteur. Et c'était, imaginez, René Keck, 38 ans, qui était depuis quelques heures une des personnes les plus recherchées au Québec.
Est-ce que, donc, la trame de fond de ça, selon tes informations, ça serait relié au monde des stupes et de la prostitution? Les deux individus arrêtés, est-ce qu'ils sont reliés à des groupes connus, à des organisations criminelles? Parce que ces deux milieux-là, stupes et prostitution, c'est souvent relié au crime organisé.
C'est très souvent lié au crime organisé. S'ils sont indépendants, là, comme ça arrive quand même, généralement, ils ont quelques comptes à rendre, disons, aux organisations criminelles. On sait que Trois-Rivières, ça a longuement été un chapitre lié aux Hells Angels, qui était très, très puissant, très actif. Est-ce que c'est lié? Pour l'instant, ce serait un petit peu tôt de s'avancer, mais vous aurez compris que c'est certain que c'est envisagé.
Et on sait que, par exemple, à Montréal, dans le domaine du crime organisé italien, il y a beaucoup de règlements de compte ces temps-ci. Alors, si l'hypothèse que tu évoquais tantôt d'un règlement de compte, est-ce à dire qu'en Mauricie, à Trois-Rivières, il y a une guerre de gangs ou il y a quelque chose comme ça? On n'a comme pas eu d'infos. Tu sais, il serait arrivé de quoi à Montréal en rapport avec le crime organisé italien? On le sait qu'actuellement, là, il n'y a pas de chef. Puis, est-ce que dans la Mauricie, il se passe de quoi? Puis là, je te pose la question à toi, comme aux auditeurs, s'il y a des gens qui ont des infos, ils se brassent tout de quoi dans ce secteur-là?
Mais non seulement c'est tout à fait possible, et c'est un transit entre Québec et Montréal, hein, faut pas oublier, une plaque tournante, la prostitution, le Québec en soi, surtout Montréal, mais le Québec au complet est une plaque tournante pour le tourisme sexuel. Il y a énormément d'exploitation sexuelle un peu partout, donc c'est sûr que c'est sur une voie d'accès assez centrale, Trois-Rivières, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a une guerre, là, faudra attendre bien sûr pour savoir, mais chose certaine, on a affaire quand même ici à une victime collatérale et une autre qui a eu la vie sauve parce qu'elle a vraiment eu le sang-froid de sauter de cette voiture en marche, là, parce que sincèrement, elle a failli y passer, elle aussi. Là.
Et comment ça se fait, dernière question, Monique, là, les deux corps calcinés dans la voiture, là, tantôt tu nous as bien dit, garde, ça peut être des complices, ça peut être des rivales, ou ça peut être deux jeunes filles aussi. Rien n'est écarté. Comment ça se fait que personne s'est manifesté au niveau de la disparition de ces personnes-là?
Oui, c'est pour ça que ce n'est pas, je vous dirais, l'hypothèse qui est la première sur la liste. C'est okay, pas au sommet de la liste. Mais c'est parce que comme on n'a pas identifié, on n'exclut rien. Là, vous savez comment les policiers fonctionnent dans ce cas-là. Cependant, dans les contextes d'exploitation sexuelle, par contre, c'est pas rare de voir des jeunes femmes qui sont disparues depuis un certain temps ou qui ont simplement pas donné de nouvelles à leurs proches. Ouais, on parle pas nécessairement de mineurs. Hein. On parle de jeunes adultes, 19, 20, 21 ans, 22 ans. Donc, ce serait pas un scénario complètement hors norme dans la mesure où on n'a pas affaire ici, par exemple, à une jeune figure de 14 ans qui est recherchée dans le secteur. Mais vous avez raison de dire qu'il n'y a pas eu nécessairement de lien avec d'autres jeunes femmes disparues dans le secteur. On peut penser à cette heure-ci, là, parce que les jours se sont écoulés, que des familles ou des proches seraient sans doute manifestées.
Et la jeune fille qui s'est sauvée a certainement rencontré les policiers.
Oui,
on a
bien
son témoignage. Donc
elle est sous
déjà...
protection, d'ailleurs, sous haute protection policière, hein, parce que c'est sûr qu'elle a été témoin et elle avait des choses à dire. Maintenant que les deux suspects sont arrêtés, sans aucun doute qu'elle pourra dormir, disons, un peu plus en paix maintenant.
Merci beaucoup, Monique Néron. Merci de nous avoir parlé.
Ça me fait plaisir. Bonne fin de semaine à vous.
Bon week-end, 8h24. Monique Néron, 98.5 à Montréal, qui enquête sur cette histoire rocambolesque. J'ai vraiment vu ça. D'habitude, on comprend assez vite ce qui a pu se passer. Ouais. Dans ce milieu-là. Là, une jeune fille de 19 ans,
Ophélie,
qui est tuée par balle. Ils ont carrément tiré dans le dos dans un champ, probablement qu'elle voulait se sauver, puis ils l'ont exécutée comme ça, paf. Alors déjà, la nouvelle était grosse. Son amie, on a tiré également vers elle, mais elle a réussi à se sauver. Et là, tout ça avec en trame de fond la prostitution, la drogue, deux individus recherchés qui sont finalement arrêtés, puis deux corps calcinés retrouvés dans une voiture non loin de là. Ben, Yamachiche, Trois-Rivières, c'est pas très, très loin. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé?
Mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là?
Et les deux filles avaient été, si je comprends bien, là, calées à un rendez-vous dans le champ, là.
Genre, ils étaient avec eux autres, en tout cas, là. Ouais.
Alors, là, ils sont rendus là, là.
C'est pas un hasard, là.
Ils ont été calés, je sais pas pourquoi, là, mais est-ce qu'on avait des questions à leur poser? Est-ce qu'il y avait... Y a-t-il une guerre de gangs? Se passe-tu de quoi à Trois-Rivières?
Ça, c'est surprenant, par exemple. Parce qu'effectivement, on entend parler des guerres de gangs à Montréal, ça oui, mais Trois-Rivières, il me semble que ça...
Et la raison pourquoi c'est non, là, je veux pas encore, je sais qu'il y en a qui contestent ça, mais la raison que c'est vrai qu'un chapitre des Hells très fort là-bas, il n'y a pas de concurrence. Fait que quand il n'y a pas de concurrence, ben, il n'y a pas de guerre. Les guerres arrivent quand il y a des Rock Machines puis des Hells sur le même territoire ou des Italiens puis des Hells au même centre-ville. Là, ça brasse. En général, quand il y a quelqu'un qui a un genre de monopole, ben, ça brasse moins. Et à Trois-Rivières, le chapitre est des Hells est un des plus puissants au Québec avec celui de Sherbrooke, mais Sherbrooke ont eu beaucoup de problèmes ces dernières années. Donc, c'est un chapitre fort. Donc, en général, le crime organisé à Trois-Rivières, c'est un monopole.
C'est ça.
Mais qu'est-ce qui s'est passé avec eux autres, là?
Ben, c'est ça. Et ça
c'était juste
que
en transit, ils étaient juste de passage, y a-tu des nouveaux joueurs, des indépendants? Qu'est-ce qui s'est passé?
On va sûrement avoir des réponses prochainement, mais...
Ou c'est une histoire d'argent, puis de dette, de drogue, ou de je sais pas, ou de bon...
Ou juste, qu'est-ce qui a mené à la tentative d'assassinat sur une fille, puis au meurtre de l'autre? T'sais, Monique parlait de tenter d'avoir des informations, les a séquestrées à l'intérieur.
Ils voulaient avoir de quoi
là? T'sais, qu'est-ce qu'on voulait comme information, là?
Ça peut être relié à des dettes de drogue, ça peut être relié à bien des affaires. Là. On s'entend, même les amis de la jeune fille disent qu'elle avait commencé depuis quelques mois à avoir des mauvaises fréquentations. Alors quand même ses amis disent ça, ça veut dire que malheureusement, il y avait eu de quoi. Là. Regarde, ça ne justifie en rien ce qui est arrivé.
Absolument,
pauvre elle, ça n'a aucun bon sens. Là. Mais ses amis disaient qu'elle avait commencé à prendre des risques. Tu sais, tu t'en vas pas rencontrer... Est-ce qu'elle est allée rencontrer des inconnus dans le champ? Ça se peut pas. Moi, je pense qu'elle les connaissait. Regarde, souvent, là, tu sais, elle a 19 ans. À savoir rencontrer deux gars de 30 ans dans un champ à Yamachiche, on peut supposer qu'elle les connaissait.
Oui.
Puis qu'il est arrivé de quoi, puis ça a mal viré.
Sauf si, en trame de fond, l'histoire d'exploitation sexuelle, là, c'était peut-être des inconnus qu'on rencontre la première fois, puis...
Oui, mais ils ne donnent pas rendez-vous dans un champ. Là.
Non, effectivement, c'est vrai.
On le sait pas, demeurons prudents, mais beaucoup de rebondissements dans cette histoire-là. S'il y a des gens qui veulent nous contacter sur ce qui se passe un peu dans le milieu interlope ou tout ça underground à Trois-Rivières ou en Mauricie, puis peut-être que ça n'a rien à voir avec la Mauricie, c'est juste qu'ils se sont rencontrés là. Parce que c'est au centre, c'est une voie de passage, comme le disait Monique. 25-226 par texto.
Oui, puis information, je ne sais pas si Monique en a parlé, mais le Journal de Québec ce matin nous dit que l'individu, en fait, ce matin, on parlait d'un individu qui avait été retrouvé calciné. Non,
ah, mais il y en a deux.
Ouais. Et là, maintenant, un des deux, en tout cas, celui qui a été retrouvé dans la voiture incendiée, était une connaissance d'Ophélie, de Mme Martin-Cyr. Fait que c'était soit des filles qu'elle connaissait, soit deux gars d'une gang rivale.
Monique, elle nous dit qu'ils ne savent même pas si c'est une fille ou un gars.
Oui.
Bon, hein. Bon. 8h27.
Cégale, La Voix, le midi, lundi au vendredi, dès 11h, au FM 93.
En 2019, Sainte-Foy-Hyundai déménage enfin dans une bâtisse flambant neuve qui, contrairement à certains buildings de Québec, va être remplie de monde et d'événements. En attendant, ben continuez à tester vos suspensions sur la rue Dalton et profitez du décompte final liquidation 2018 pour vous sauver avec un Kona en location à 50$ par semaine ou des pneus d'hiver gratuits avec l'Accent ou l'Elantra. Le meilleur reste à venir chez Sainte-Foy-Hyundai, mais les deals, eux autres, sont maintenant. Moins de
paiement! 8h28, vous magasinez pour vos couvre-planchers. Moi, je vais vous parler de céramique l'entrepôt. Pourquoi elle est là? Tu sais, dans le fond, il y a des gens, des fois, qui magasinent. Bon, c'est sûr que le slogan, ça va être qu'ils ont du choix, sont moins chers, puis bon. Ouais, c'est parce qu'il y en a d'autres qui disent aussi qu'ils sont pas chers, puis tout ça. Hey, vous avez raison. Moi, vous parlez du succès de céramique l'entrepôt. Les gens, ils magasinent, ils viennent chez nous. J'y étais encore cette semaine, là. Ça marche, céramique l'entrepôt. Les gens, ils magasinent, ils comparent, ils achètent chez nous. Fiez-vous, à la limite, fiez-vous à moi, mais pas juste à moi. On agrandit chez Céramique L'Entrepôt. J'ai rencontré les gens de la direction. On a des projets. On agrandit. Ça va bien. Il y a du monde dans le magasin. On a même ouvert un deuxième dans le coin de Saint-Jérôme, puis on continue l'expansion. La formule, marche parce qu'on a du choix. Les gens viennent, ils ont trouvé des affaires ailleurs. On l'a aussi. Et beaucoup moins cher avec le prix palette. En vente sur plus d'inventaire, là, il y a des items réduits à 70 %. Moins cher et du choix et des excellents conseils avec une équipe expérimentée. Et faire un tour comme plein de monde. Pierre Bertrand en face de l'entrepôt du hockey, Céramique L'Entrepôt.
Ici Pierre-Olivier Cyr, hypnotiseur. Les abris d'Auto-Trévy ont fait appel à mes services pour implanter deux nouveaux mots dans votre mémoire. Alors écoutez bien le son de ma voix. Chaque fois que vous penserez au mot abri d'auto, vous penserez à abri-Trévy. 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 Cela sera effectif dès que je claquerai des doigts.
Obtenez un abri Trévi à partir de 279 $ et ne payez rien avant 2019. Quand vous pensez abri, pensez Trévi.
Vous avez une résonance magnétique à passer? Chez IRM Québec, tout est pensé pour diminuer votre niveau de stress. Chez IRM Québec, une équipe de professionnels répond à vos questions. Chez IRM Québec, vous aurez un rendez-vous très rapidement, de jour ou de soir. Avec IRM Québec, vous pourrez donc dormir tranquille. Envoyez votre prescription en ligne. IRMQuébec.com. La force magnétique dans trois cliniques à Québec.
C'est l'événement toujours en tête chez Kia Beauport. Obtenez le Sorento 2019 à partir de 25 895 et le Sportage 2019 à partir de 25 995 Venez nous visiter dans notre toute nouvelle concession.
Kia Beauport, je t'adore.
Parfois, vous avez un party de Noël à organiser. Parfois, c'est un 5 à 7 pour le bureau. Parfois, c'est une soirée de départ pour un collègue. Parfois, c'est une fête pour la fin de saison de baseball. Parfois, c'est un enterrement de vie de fille. Et parfois, c'est juste une soirée en chum. Mais chaque fois, chez Doulies, vous trouverez tout pour veiller tard en groupe. Pour 10 ou 300 personnes, ils peuvent tout organiser, du décor à la nourriture. C'est simple, le meilleur endroit pour s'amuser, boire et manger en groupe, c'est chez Doulies. Détails à douliesquebec.com.
Fix Auto, les premiers mots auxquels on devrait penser après un accident. Et votre premier choix en matière de réparation de carrosserie. Visitez fixauto.com pour une estimation sans obligation.
Difficultés financières? Mallette. Syndic autorisé en insolvabilité. Depuis plus de 75 ans au service des gens. Professionnalisme. Compréhension. Respect. Faites affaire avec de vrais experts. Mallette. Prenez rendez-vous pour une consultation sans frais en visitant notre site web llTT.ca. Mallette. Avec vous, là où ça compte.
Pour une quatrième année d'affilée, Kia est au premier rang pour la qualité initiale selon J.D. Power. Voilà une bonne raison de profiter de l'événement toujours en tête de Kia. Jusqu'au 31 octobre, obtenez un taux de financement de 0 % plus l'entretien à nos frais sur les modèles sélectionnés. Passez chez votre concessionnaire Kia.
La SAQ lève son verre à la promo Point Éclair de ce samedi. Obtenez une foule de points bonus sur les produits sélectionnés. De quoi faire plaisir à mon oncle Michel qui dit «
Hé, que j'ai accumulé vite avec ce petit vin-là ».
Puis ma tante Joanne qui va encore se vanter de
tous les points bonnies que j'ai eu avec ma bouteille de bulle préférée.
Pendant un jour seulement à la SAQ, obtenez une foule de points bonnies sur des produits sélectionnés avec la promo Point Clair en ligne et en succursale. Puis bonne chasse aux points à tous.
SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus jusqu'à épuisement des stocks. Détails dans SAQ.com.
Ici Louis-Jean. TVA Sport, le Journal de Montréal et le Journal de Québec s'unissent pour le pool national de hockey. Inscrivez-vous sur lepnh.com.
Le dimanche 14 octobre, le marathon SSQ de Québec se déroulera pour une première fois dans les rues de Québec. Il y aura d'importantes modifications à la circulation. Consultez l'outil Info Circulation disponible au ville.quebec.qc.ca/marathon. Un message de la Ville de Québec.
Flash pub. Flash pub.
C'est la foire du bâton à l'entrepôt du hockey et Hockey Expert. Sauvez les taxes sur les bâtons à prix régulier dans les deux entrepôts du hockey et Hockey Expert à Saint-Romuald.